Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur le cours de F6KGL. Donc ce soir, nous allons voir la première partie du chapitre 3 et on va parler de deux sujets qui sont les transformateurs, les piles et les accumulateurs. Enfin, piles et accumulateurs étant le même sujet. On va commencer par les transformateurs. Donc, un transformateur, c'est finalement un cas particulier de bobine parfaite, enfin, couplée au mieux. Donc, un transformateur, c'est composé au moins de deux bobines, et elles sont bobinées autour du même circuit magnétique. Et donc, en règle générale, on cherche à avoir le meilleur couplage possible entre les bobines. Un truc qui est très important aussi, c'est que comme on a vu que la bobine avait tendance à modifier la forme du courant, hein, on avait bien vu quand on était en signal carré notamment, on voyait des pointes qui arrivaient dans tous les sens, alors que lorsqu'on est en signal sinusoïdal, la tension et intensité ont la même forme, eh bien on va faire la même chose avec les transformateurs, puisque ce sont des bobines finalement, et donc on va privilégier plutôt la transformation de courants sinusoïdaux, même si la bobine, le transformateur, c'est très bien aussi transformer des courants non sinusoïdaux, des carrés notamment. Mais ça marche moins bien. Ça marche moins bien parce que le couplage est plus difficile à faire. Et donc, par conséquence, le rendement sera moins bon. En termes de vocabulaire, l'énergie, puisqu'en fait le transformateur, on applique au transformateur un courant sinusoïdal que l'on va récupérer sur sa sortie. Donc l'entrée, c'est là où on applique l'énergie, et la bobine, elle va s'appeler le primaire, alors que on récupère l'énergie transformée sur le ou les secondaires. Alors, la plupart des transformateurs, on a un primaire, alors on n'a toujours qu'un seul primaire, mais on peut avoir un ou plusieurs secondaires. Selon les applications qu'on veut faire, si on a besoin en sortie de différentes tensions, eh bien on va utiliser plusieurs secondaires. Voilà. Et donc un transformateur, ça transforme et donc ça a des caractéristiques au nombre de 3. Première caractéristique, c'est le nombre de spires, hein, comme une bobine, hein, ça va marcher exactement de la même manière. Et ce rapport du nombre de bobines, donc en fait dans le circuit, je vais vous montrer un transfo tout à l'heure. Là, vous en avez un. Alors, c'est pas un transfo. Ce que j'ai, moi, c'est un transfo 50 Hz. D'accord ? Ça, c'est pas spécifiquement un transfo 50 Hz. C'est plutôt un transfo peut-être BF, je sais pas. Enfin, en tout cas, ici, vous avez le primaire avec un certain nombre de spires. Le circuit magnétique, alors là on vous a mis un sens de champ magnétique, mais évidemment comme je suis en courant alternatif, mon champ magnétique, il change de sens à chaque fois que je change d'alternance, on est bien d'accord. Et donc ce champ magnétique va arriver dans la bobine du secondaire, et donc si j'ai un courant ici dans le primaire, une intensité dans le primaire, ça va générer un champ magnétique ce champ magnétique va arriver dans le secondaire et ce champ magnétique va se transformer en courant électrique. Alors, plus précisément, la puissance que l'on va avoir à l'entrée sur le primaire et à la sortie sur le secondaire, c'est la même. Alors ça, c'est dans le cas du transformateur parfait. C'est-à-dire que lorsque le couplage des deux bobines est parfait et qu'il n'y a pas de perte. C'est, dans la vraie vie, c'est un peu difficile à trouver cette belle chose. Mais voilà, sachez que normalement, un transformateur, ça ne fait que transformer le courant, c'est-à-dire transformer la tension ou l'intensité et l'impédance, mais en tout état de cause, la puissance au primaire est égale à la puissance au secondaire. Donc, ce qui est important, c'est le nombre de spires ici, ça va déterminer le rapport des tensions, c'est-à-dire que je compte ici le nombre de spires que j'ai à mon primaire, puis le nombre de spires que j'ai à mon secondaire, et la tension au secondaire est complètement proportionnelle au nombre de spires. C'est-à-dire que si j'ai deux fois moins de spires ici au secondaire, eh bien j'aurai deux fois moins de tension. Et ça marche même avec un transformateur non parfait. Donc on peut dire, dans un transformateur, eh bien j'ai tant de volts ou tant de millivolts par spire. Ça marche très bien. Donc quand vous avez un transformateur, si vous voulez bricoler et changer la tension d'un transformateur, c'est assez simple. Il suffit finalement de débobiner des spires au secondaire. Et si vous voulez augmenter la tension au secondaire, au contraire, vous débobinez des spires au primaire. Et comme ça, vous avez un rapport qui est différent. Et donc, ça augmente le rapport du nombre de spires. D'accord ? Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, quand vous démontez un transfo, il est beaucoup plus facile de retirer des spires que d'en remettre. Ça, c'est déjà, c'est pas facile d'en retirer, mais alors en rajouter, c'est tout simplement pas possible. Donc la puissance. Ah oui, alors la puissance ici au secondaire, la puissance, on a toujours l'habitude de parler en watts. Pour parler de puissance. Là, en fait, ce n'est pas de la... Et quand on parle de watts, c'est de la puissance consommée. Là, en l'occurrence, ce n'est pas de la puissance consommée, puisque c'est de la puissance disponible. Et donc, on va utiliser un autre terme qui est équivalent, qui sont les volts-ampères. Puisque la puissance P égale 8, donc P égale la tension multipliée par l'intensité, et quand on parle en volts-ampères, c'est finalement c'est la même chose que des watts. Mais pour bien montrer que c'est une puissance non pas consommée, mais que c'est une puissance disponible. Et quand on parle pour un transformateur de puissance en volts-ampères, ce n'est pas la puissance à l'entrée, mais c'est la puissance disponible à la sortie. Donc, si votre transformateur n'est pas parfait, s'il a un rendement qui est inférieur à 100%, vous allez consommer finalement plus que la puissance utile délivrée par le ou les secondaires. J'ai oublié de dire, dans le cas de mon transformateur, lorsque le nombre de spires ici au secondaire, là on voit, il y en a moins. Et donc automatiquement, la tension en sortie de mon secondaire va être inférieure à la tension de l'entrée. Dans ce cas-là, on va dire que mon transformateur est abaisseur. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que si je l'alimente ici en 220 et qu'ici il me sort 400 volts, dans ce cas-là, je vais avoir un transformateur dit élévateur. Mais voilà, après, on peut très bien utiliser un transformateur dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que on est le primaire. C'est là où il y a le plus, enfin dans ce cas-là, c'est là où on a le plus de spire, mais on pourrait très bien imaginer que je mette ici mon primaire, et que du coup mon secondaire est de l'autre côté, et du coup mon transformateur du coup devient élévateur. Donc, et ça marchera très bien. Hein. Voilà. Donc il faut bien avoir ça en tête. Voilà, donc le nombre de spires, la puissance délivrée au secondaire, et troisième caractéristique, le rendement. Le rendement, c'est ça qui est presque le plus important dans un transfo, parce que, voilà, un transformateur parfait, le rendement est de 100%, c'est-à-dire que l'intégralité de la puissance qui est au primaire est restituée sur les secondaires, sur le ou les secondaires. Dans la vraie vie, on n'y arrive pas, et quand on a un rendement de 90%, on est super content. Alors effectivement, les volts-ampères, c'est la même unité que sur la facture EDF. Enfin, sauf que c'est pas des volts-ampères, généralement, c'est plutôt des kilowatt-heure ou des choses comme ça. Et le volt-ampère, c'est exactement la même chose. Puisqu'encore une fois, EDF, heureusement, c'est de l'énergie disponible qui vous vend. C'est pas de l'énergie consommée. Hein. Donc c'est vos radiateurs qui consomment des watts, mais c'est monsieur EDF, il vous fournit des volts ampères. Voilà. Et donc, dans le cadre de mon transformateur parfait, alors juste une précision, c'est que dans toutes les questions d'examen, on a que des transformateurs parfaits. Hein, on ne vous rajoute pas ce truc de rendement qui vient perturber un petit peu les formules qu'on va voir après. Donc voilà, le rendement, il ne peut être qu'inférieur à 100, mais ça, on a l'habitude maintenant. Si vous avez des rendements supérieurs à 100, surtout, vous déposez un brevet, parce qu'il y a peut-être un peu d'argent à se faire là-dedans. J'y crois pas, mais bon, pourquoi pas. Je vais virer ça, c'est m'embête. Ici, je vous ai mis un schéma, donc le schéma d'un transformateur avec un circuit magnétique. Donc un circuit magnétique, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est les empilages de tôle, là, qui forment le circuit magnétique. Donc ça, c'est typiquement un transformateur que l'on va retrouver dans les alimentations secteurs. Et puis, un transformateur, ici, sans circuit magnétique, donc AR, qu'on va voir dans une application radio. Parce qu'en règle générale, tout dépend de la fréquence que vous allez utiliser. Dans les très basses fréquences comme le 50 Hz, vous avez un circuit magnétique avec du feuilletage. Et ici, vous avez un circuit sans circuit magnétique, donc AR. Donc c'est un transformateur AR. Et puis si c'est un pointillé, c'est comme les bobines avec des tores. C'est-à-dire que c'est de la ferrite qui est à l'intérieur. Hein, le noyau magnétique, le circuit magnétique, c'est de la ferrite et non pas de la tôle comme ici, les deux traits. Voilà. Alors, je vous ai trouvé quelques photos et je vais vous présenter après mes deux transfos. Là, c'est des photos que je vous ai trouvées. Alors, si ça veut bien... Voilà. Donc ça, c'est un transfo... Hop, 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 hop. Non, ça ne veut pas. Voilà. Ça, c'est un transfo HF, donc haute fréquence. Et évidemment, on sent bien là qu'il n'y a rien du tout à l'intérieur. Enfin, c'est un tube ici en carton qui permet de rigidifier la bobine, c'est tout. Hein. Donc à l'intérieur, là, c'est du vide. Hein, donc c'est un transformateur à air. Voilà. Et donc, alors, certains, là ici, il y a un départ et ici une arrivée. Et il doit y avoir, je suppose, à l'intérieur, parce qu'il y a d'autres picots là, et donc je pense qu'il doit y avoir d'autres bobines quelque part. Ce sont des bobines couplées. Voilà. Autre cas, et ça vous le voyez assez souvent dans les balloons. Donc ici, ça c'est un balloon avec deux fils. Et donc voilà, vous avez un alors deux fils parce que on voit bien, il y a deux couleurs différentes. Ce qui est important dans le balloon, quand on compte le nombre de spires, c'est il faut que la spire passe à l'intérieur ici du tore. Hein, ça, c'est un tore en ferrite. Voilà. Et pour compter le tour, parce qu'on ne peut pas faire des demi-tours en fait, on fait un tour complet et le fait de passer à l'intérieur du tore, ça forme le tour. Voilà. Ici, je vous ai mis des petits transfos BF. Donc, ici, un transformateur secteur comme on va voir tout à l'heure. Voilà, encore un autre. Et ici, un transfo torique. Donc, ça ressemble un petit peu à celui-là, qui est en ferrite. Sauf que là, c'est de la tôle. Hein. Et l'avantage de ces transfos toriques, c'est que, un, ça tient un peu moins de place. Et deux, le rendement est nettement meilleur que le transformateur à carcasse qu'on a ici. Voilà. Donc ils sont un tout petit peu meilleurs. Et puis, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont mon ferraillage ici en E et en I. C'est-à-dire que je vais vous montrer à l'intérieur de du transformateur. Ici, on a les spires qui passent ici dans les deux trous là, et donc ça reboucle comme ça, et donc on a ici, ça c'est le feuilletage magnétique qui permet au transformateur de guider le champ magnétique, et un champ magnétique de très basse fréquence, donc du 50 Hz typiquement. Je vais vous passer sur la webcam et vous passer mon beau transfo que je vous montrais tout à l'heure. Donc ça, c'est un transfo qu'on a complètement démonté au Radio Club pour montrer comment c'est foutu à l'intérieur surtout. Donc je retire d'abord ça. Alors ça, en fait, au départ, il y avait la carcasse là, elle faisait tout le long là. Hein. Donc là, elle remplissait tout l'espace. Là. Je vais prendre un crayon pour montrer. Elle remplissait tout cet espace là. On a été obligé de la scier pour retirer d'un côté et de l'autre. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, il a fallu la passer le transformateur au chalumeau. C'est parce que quand un transformateur est fait, est terminé, il y a tout un bandage en espèce de papier, puis une sorte de vernis, vernis et colle à la fois, et qui entoure tout le transfo. Là ici, ça c'est pas du, je sais pas ce que c'est une sorte de gros carton qu'il y a là, qui tient finalement les spires. D'accord. Donc ici vous avez l'extérieur finalement que l'on a complètement cramé pour pouvoir extraire le circuit, le feuilletage magnétique. Alors donc ici vous avez tous les primaires et les secondaires, enfin le primaire et tous les secondaires. Ne me demandez pas où est le primaire, je ne sais pas. Enfin en tout cas, il y a un grand nombre de secondaires. Je ne sais pas trop à quoi ça servait. Enfin bon voilà. Voilà. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici tous les différents Là, on voit, il y a encore un peu de... Je ne sais pas si vous le voyez. Je le retire, l'espèce de papier avec l'espèce de vernis dessus qui entoure finalement mon transpo. Et là, vous voyez toutes les spires. Toutes les spires des différents secondaires. Et alors, je ne sais pas si vous... Enfin, ma webcam, elle est bien, mais je ne sais pas si vous allez... Enfin, si vous le voyez... Mais on a des diamètres de fils différents. Là, c'est des plus gros diamètres. Et plus on va vers la droite, là, plus les diamètres sont petits. Et quand on regarde sur le côté, là, on voit qu'à l'intérieur, ce sont il y a encore des plus petits diamètres qui sont là. On le voit très mal, mais ils sont là. Donc vous avez plusieurs diamètres. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, du coup, il y a plusieurs tensions disponibles sur les secondaires. Alors après, voilà, savoir comment ils étaient branchés, à la limite, il faudrait sonder chaque fil pour voir où est l'entrée, où est la sortie. Voilà, parce que malheureusement, avec la couleur, eh bien, comme tout a été cramé, c'est difficile à savoir. Voilà, donc ça, c'est mon transfo, et à l'intérieur du transfo, donc il y a le circuit magnétique. Évidemment, là, je n'en ai gardé qu'une seule partie. Alors, d'une part, parce que, c'est lourd, donc à transporter, voilà, pas top. Et d'autre part, tout était collé. Et donc, en fait, on s'amuse bien à essayer de décoller toutes les parties. Alors, là, ça a été scié, là, donc on voit plus. Là, on voit bien que ça a été scié ici, là. Cette partie-là, elle est bien... Et donc, en fait, ça, c'est des fers en E et en I. Donc, alors, il y en a un côté qui se démonte, voilà. Donc, ça, c'est un E. Alors, évidemment, comme ça a été scié, là, il manque une partie. Hein, il manque la partie ici qui revient là. Et ça, c'est le fer en I qui vient là. Si bien qu'à la fin, on a quelque chose qui ressemble à ça, hein, que je fais dans un sens et puis dans l'autre. Alors, si j'essaye de... Voilà. D'en ouvrir un autre, voilà. Donc, on arrive à quelque chose comme ça. Et évidemment, ici, il y a des vis qui permettent de maintenir l'ensemble. Et donc, quand on regarde ce système-là, ça rentre parfaitement dans le trou, ici, de mon circuit magnétique, ici. Hein? Donc, voilà un transfo. Ça vous permet d'avoir une idée de la manière dont on fait ça. Alors effectivement, le primaire est plus fin que les secondaires, tout dépend de la tension qu'on met dessus. Si effectivement, les transfos d'alimentation qu'on a actuellement, puisque nous, on les alimente en 220 et on a besoin en sortie de 12 volts, par exemple, il est évident que dans ce cas-là, le primaire... à une section qui est plus faible que le secondaire. Mais si vous êtes dans le cas d'un transformateur élévateur, et ben c'est l'inverse. Donc vous pouvez vous dire, juste en regardant un transfo, que le fil le plus fin, c'est en règle générale le plus long, et donc celui où il y a le plus de tension. Et donc le moins d'intensité. Et plus le fil est gros, plus il y a de l'intensité qui passe dedans, et plus il y a de l'intensité qui passe dedans, moins il y a de spire sur son enroulement, et donc moins il y a de tension. Et c'est logique, puisqu'on a dit qu'on a autant de puissance à l'entrée qu'à la sortie. Ça veut dire que si on a plus de tension en sortie, eh ben, ça veut dire qu'on a moins d'intensité par rapport à l'entrée. Puisque, encore une fois, la puissance, c'est la tension multipliée par l'intensité. Donc si vous doublez la tension, eh ben, vous diminuez par deux l'intensité. Etc, etc. Enfin, c'est une règle, c'est proportionnel, quoi. C'est proportionnel. La tension est proportionnelle au nombre de spires, alors que l'intensité est inversement proportionnelle au nombre de spires. Je reviens sur le PDF. Hop, hop, hop. Alors, tac, si je le mets, voilà, hop. Et j'en arrive aux formules du transformateur. Alors, en fait, j'en ai quelques-unes des formules. Ici, ça, c'est mon transformateur. Alors, j'ai mis l'intensité ici dans un sens, mais évidemment, c'est du courant alternatif. Donc, j'ai pas réellement de sens, puisque ça part dans un sens, puis après, ça repart dans l'autre. Donc, voilà. Ici, même chose, j'ai la tension. Donc, intensité primaire, tension primaire, et donc la puissance au primaire, bah, c'est la tension multipliée par l'intensité. OK. Ici, j'ai le nombre de spires en primaire. Et ici, j'ai mon secondaire avec une charge, tout à faire, puisque sinon, j'ai beau mettre une tension ici, si derrière je n'ai pas de charge, il va rien se passer. J'aurai de la tension, mais l'intensité, je ne pourrais pas la vérifier. Si je ne reboucle pas sur une charge, je vais avoir un peu de mal à faire débiter, à mesurer mon intensité. Donc, ma formule ici, elle me dit que la tension au secondaire divisée par la tension au primaire est égale au nombre de spires du secondaire divisé par le nombre de spires du primaire. Et donc ça, c'est égal à N, N étant le rapport de transformation. Donc le rapport de transformation, c'est le rapport du nombre de spires. Si ici, j'ai un transformateur abaisseur, puisque j'ai moins de spires au secondaire, mon facteur de transformation, là, sera inférieur à 1. Donc si mon transformateur est abaisseur, il aura un rapport de transformation inférieur à 1. C'est relativement simple. Et puis pour l'intensité, eh bien l'intensité, elle, va être inversement proportionnelle au nombre de spires, puisque j'ai la même puissance de chaque côté. Donc encore une fois, si j'augmente, si je baisse ici ma tension, pour obtenir la même puissance, je suis obligé d'augmenter l'intensité. Et donc si je baisse, si je diminue par 3, on va dire, pour simplifier, pour changer de valeur, si on divise par 3 le nombre de spires, on va diminuer par 3 la tension de sortie du secondaire, mais on va multiplier par 3 l'intensité du secondaire. Voilà comment ça fonctionne. Donc une fois qu'on a bien compris ce système-là, alors en alternatif, le phi intervient pour la puissance. Pourquoi il n'apparaît pas ici? Parce qu'on fait des trucs simples et que dans les transformateurs, on va supposer que tension et intensité sont en phase. Voilà. On peut aussi faire en sorte qu'ils ne soient plus en phase. Les formules resteront vraies, mais ce qui va être plus compliqué après, c'est ne serait-ce qu'au niveau de la charge, puisque ici ma charge, on va supposer que c'est une résistance, et que donc ma résistance, elle est toujours. Ça reste en phase, tension et intensité sont en phase dans une résistance. Voilà. Donc le cosinus phi là n'apparaît pas. Et donc je vous ai ici ajouté un petit tableau qui permet de récapituler. On va voir comment ça fonctionne avec des exemples chiffrés. Mais voilà, donc ici vous avez toutes les valeurs du secondaire sauf l'intensité primaire et le n nombre de spires, et en bas ce n'est que du primaire sauf l'intensité qui est secondaire et le 1 pour le nombre de spires, et en haut, donc ça, ce sont tous ces, la première ligne est complètement proportionnelle à la deuxième ligne. Ce que j'ai oublié de dire, ce dont je n'ai pas parlé, c'est l'impédance. L'impédance, je rappelle, c'est le rapport tension divisé par intensité. Donc la puissance est tension multipliée par intensité, impédance est tension divisée par intensité. On sent bien que là, puisque ici j'ai ma puissance, donc U multipliée par I, donc ma puissance va être égale de chaque côté, mais pour autant, si mon impédance, elle, va aller avec le carré du nombre de spires. Je m'explique. Imaginons qu'ici, j'ai 10 volts, 1 ampère. Ici, j'ai un rapport qui est de 1 sur 2. Donc, ça veut dire que en sortie, j'ai deux fois moins de tension et deux fois plus d'intensité. Donc de mes 10 ampères, de mes 10 volts, ça devient 5 volts, et de mon ampère que j'ai au primaire, ça devient ici 2 ampères. D'accord ? Quand on regarde l'impédance maintenant, ici en impédance, j'ai donc 10 divisé par 1, 10 ohms, alors que de l'autre côté, j'ai 5 volts divisé par 2 ampères. Donc ici, j'ai 2,5 ohms. Et donc, le rapport de transformation des impédances, c'est donc le carré du nombre de spires. Et ça, c'est très important quand vous voulez notamment quand on fera les antennes pour voir le côté des balloons. Donc à partir du moment où on a le nombre de spires d'un balloon, eh bien on en déduit son rapport de transformation. Alors attention, dans les balloons, il faut aussi tenir compte du rendement. Bon, il se trouve que la plupart du temps, les rendements sont relativement bons, c'est-à-dire 80-90%. Voilà, donc ça, ce sont les formules de base. On va voir maintenant comment utiliser mon joli tableau ici de couple de rapports proportionnels. Alors, les couples là, donc ça veut dire que le N va avec le 1, US va avec UP, IP va avec IS, N, donc le nombre de spires, NS va avec NP, et racine de ZS va avec racine de ZP. Et donc là, on va voir comment ça fonctionne. Donc, premier exemple, un transformateur alimenté en 282 volts maximum à son primaire, à un rapport de transformation de 1 sur 10, quelle sera la tension efficace mesurée au secondaire. Donc là, en plus, on fait un petit rappel, les transformations de tension maximum en tension efficace, puisque là, j'ai 282 volts maximum. Et donc, ces 282 volts maximum, on doit les transformer en valeurs efficaces, puisque derrière, mon rapport de transformation, c'est des volts efficaces, et de toute façon, on me demande une valeur efficace en sortie. Voilà, donc mes 282 volts maximum, je multiplie par 0,707, ça me donne 200 volts, c'est arrondi, évidemment. Mais c'est arrondi, ça doit donner un tout petit peu plus que 200 volts, mais bon, ça c'est pas grave. Donc ça me donne 200 volts efficaces. Et lorsque j'utilise après mon... alors déjà, je ne suis pas obligé d'utiliser ce beau tableau. Pourquoi ? C'est que je sais que le rapport de transformation, c'est 1 sur 10, donc c'est abaisseur. Et donc, voilà, je multiplie par un dixième tout simplement. Mais je peux, si je suis très tordu, utiliser aussi mes rapports proportionnels qu'on a déjà évoqués. Donc là, mes deux couples, c'est donc N et la tension. Hein, c'est ça que j'ai. Donc ce sont les deux couples ici, donc là, les rapports de tension et les rapports ici du rapport de transformation. Et comment j'ai cette tension ici, puisque c'est cette US que je cherche. Donc US, c'est donc le produit de la deuxième diagonale, donc N fois UP, divisé par la valeur opposée, c'est-à-dire 1. Donc je fais N multiplié par UP. Donc la tension au primaire, c'est 200 volts, multiplié par N, c'est donc un dixième. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors évidemment, là, c'était un peu abusé d'utiliser ces valeurs qui sont donc proportionnelles. En revanche, pour mon deuxième exemple, là, ça va être un peu plus parlant, puisque je vais utiliser deux autres couples. Mais voilà, on peut utiliser n'importe quel couple, pas spécialement des couples, d'ailleurs, qui sont l'un à côté de l'autre. On peut utiliser, par exemple, US avec racine carrée de ZS, et racine carrée des impédances et la tension. Ce qui est important, c'est d'utiliser à chaque fois les deux couples parmi ces cinq valeurs. Exemple 2, sur le secondaire d'un transformateur est branché une résistance de 200 ohms. Le transformateur possède 80 spires au primaire et 40 spires au secondaire. Quelle impédance mesure-t-on au primaire? Et donc là, je vais utiliser là du coup ma petite table là. Ici j'ai donc mon nombre de spires secondaire primaire, et ici j'ai racine carrée de l'impédance secondaire et racine carrée de l'impédance primaire. Donc si je vois que j'ai racine carrée, vous souvenez, on avait fait la même chose quand on avait utilisé la loi d'Ohm. Quand on cache ici une racine carrée, le résultat va être mis au carré. Donc le résultat de cette opération, c'est quoi? Mince. C'est donc le produit ici de ma deuxième diagonale, mais que je mets au carré. Donc ça va être np au carré multiplié par z, puisque racine carrée de z au carré, ça me fait z, enfin zs en l'occurrence. Donc, donc ça va me faire np au carré multiplié par zs divisé par ns au carré. Et donc, je ne l'ai pas ici sur ma... je vais le faire à la calculette. Hop. Full HD. Yes. Donc, j'ai 200 ohms. Je multiplie par... Alors... donc 80 spires au primaire, au carré. 80 au carré. Voilà. Multiplié par l'impédance, c'est fait. Pardon. Hop, je reviens en arrière. Et je divise par le nombre de spires du secondaire au carré. Donc 40 au carré. Égal, et donc ça me fait 8 10 puissance 2, donc 800. Ça me donne donc 800 ohms. Voilà. Autre manière de faire, et ça je vais vous repasser le PDF, c'est de le faire sans mes calculs, là, enfin sans ma calculette, juste avec du bon sens. Et donc le rapport du nombre de spires, c'est donc NS sur NP, donc c'est 1,5, hein, primaire 80, 40 au secondaire, donc c'est un abaisseur, donc 1,5. Et donc ma tension au primaire, il faut que je divise par n au carré. Hein, c'est-à-dire que comme la multiplication, c'est valable quand je passe du primaire, enfin quand j'ai mon impédance au primaire et que je veux calculer mon impédance au secondaire. Là, c'est l'inverse que je veux faire, donc il faut que je revienne en arrière, donc là je divise. Et donc je divise par n au carré. Et donc 200 divisé par 0,5 au carré, c'est comme si je multipliais par 4. Voilà, 1/2 au carré, c'est donc... divisé par 1/2 au carré, c'est comme multiplié par 4. Et donc 200 fois 4 égale 800. Donc ça, c'est la deuxième formule. Les transfos, c'est pas très compliqué, il faut juste avoir un peu de méthode. Et un peu de jugeote, savoir comment ça fonctionne. Voilà, donc il y a d'autres... Alors, il y a pas mal de questions à l'examen sur les transfos, il faut le savoir. Donc, il faut y être... C'est quelque chose sur lequel il vaut mieux pas faire d'impasse. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit paragraphe sur le rendement, sachant que le rendement n'est pas... j'ai jamais vu de question sur le rendement à l'examen. Encore une fois, les transfos sont des transfos parfaits, et donc, donc on n'a pas ce souci du rendement qu'on va voir notamment tout à l'heure quand on fera notre petite expérience. D'ailleurs, j'ai pas sorti mon voltmètre, je sais même plus où il est, là. Faudra que je le remette en route. Donc le rendement, c'est fonction finalement du couplage des enroulements de ma bobine, de mes bobines, et donc ce dont on avait parlé la semaine dernière, c'est-à-dire le coefficient de mutuelle induction. Évidemment, on cherche là d'avoir le plus grand couplage. Et Et donc, en règle générale, le rendement pour les transformateurs d'alimentation, on est bien d'accord, c'est aux alentours de 80%. Et évidemment, c'est un rendement qui est optimal si le courant est de 50 Hz et que le courant est sinusoïdal. S'il n'est pas de 50 Hz, tout au moins pour les transfos d'alimentation, si vous utilisez une autre fréquence, par exemple 60 Hz, et ben vous n'allez pas avoir un rendement optimal parce qu'il n'est pas le transfo n'est pas calculé pour cette fréquence-là, notamment les feuilletages. Et quand on le rendement va avoir une incidence non pas sur la tension qui elle reste complètement proportionnelle au nombre de spires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si dans un transfo, on caractérise la bobine en disant, eh bien, ça fait tant de volts par spire. Ou tant de millivolts par spire. Et ça, c'est constant, que ce soit au primaire ou au secondaire. La tension est complètement proportionnelle au nombre de spires, même dans les transformateurs non parfaits. En revanche, le rendement va avoir une influence sur le courant. On va multiplier l'intensité du secondaire par l'inverse du rapport de de transformation, puisque c'est inversement proportionnel, mais aussi on va multiplier par le rendement. Et donc, c'est le rendement qui va pâtir du... Enfin, c'est de l'intensité qui va pâtir du mauvais rendement du transfo. Et évidemment, puisque l'intensité est diminuée, eh bien l'impédance aussi va être diminuée de la même proportion du rendement du transformateur. Voilà. Donc le rendement va avoir une incidence sur l'intensité et sur le rapport des impédances, enfin la transformation des impédances. Et alors ce rendement, il est assez théorique, puisque il est optimal pour une certaine puissance, hein, donc en volts-ampères. Et si on se rapproche de cette puissance maximum admise par le transformateur, plus on va dégrader le rendement. Et donc, donc il ne faut pas aller au maximum de la puissance admise, il faut aller un tout petit peu avant pour avoir le rendement le meilleur possible. Et de même, si le transfo est sous-utilisé, c'est-à-dire que vous le faites débiter très peu, eh bien, il va avoir un mauvais rendement. Pourquoi ? C'est que le circuit magnétique qu'il y a dans votre transfo, eh bien, faut l'alimenter. Et donc, quelle que soit la puissance que l'on récupère sur les secondaires, il faut l'alimenter à peu près de la même puissance. Et donc, du coup, le rendement est mauvais lorsqu'on sous-utilise un transformateur. On a besoin, en fait, d'énergie pour le faire fonctionner. Voilà. Et le dernier point, et ça, encore une fois, c'est pas au programme de l'examen, c'est pourquoi on utilise des noyaux en fer doux, parce qu'en l'occurrence, mes ferraillages là, que je vous ai montré tout à l'heure, ce n'est pas de l'acier, c'est du fer doux. Et donc ce fer doux va être utilisé dans les transfos. Et pourquoi il y a des feuilletages? C'est parce que c'est pour éviter qu'il y ait du courant qui se crée dans cette carcasse, dans ce ferraillage. Parce que s'il y a du courant, puisque c'est un champ magnétique, et que ce champ magnétique va générer du courant, et donc on va faire en sorte que le feuilletage, on va en plus lui mettre une sorte de vernis dessus, pour éviter que les plaques entre elles se touchent. Donc elles sont isolées les unes des autres. Et ce système-là permet à ce que, du coup, il n'y ait pas d'intensité, il n'y a pas de courant dans le circuit magnétique, parce que s'il y a du courant dans le circuit magnétique, eh bien, ça va chauffer, et donc on va avoir un mauvais rendement. Et donc, pour réduire les pertes qu'on appelle les pertes de courant de Foucault, eh bien, on va utiliser... Alors, Foucault, oui, effectivement, c'est le gars du pendule. C'est le même, c'est à peu près à la même période où il a découvert ses courants qu'il a installé son pendule au Panthéon. Voilà, donc c'est le même qui a fait ça. Et les courants de Foucault, c'est très intéressant, c'est ce qui permet aux plaques de cuisson à induction de fonctionner. Hein, puisque c'est en fait, dans une plaque à induction, ce que vous faites un champ magnétique intense, et le fond de votre casserole est en acier ou à une matière qui est aimantable, et donc c'est ce champ magnétique qui rentre dans le fond de votre casserole qui fait chauffer le cul de la casserole. Voilà. Donc Monsieur Foucault, c'est celui qui a permis c'est une application de les plaques de cuisson modernes, là, c'est pas des vitrocéramiques, les autres, je me souviens jamais, la plaque de cuisson à induction, voilà, je cherchais le nom, c'est celui, enfin, M. Foucault, c'est celui qui a permis de développer cette belle technique plutôt que le gaz. Voilà, et c'est pas Jean-Pierre Foucault, c'est pas le même. Donc je vous ai mis ici les formules du transformateur non parfait. Donc vous voyez qu'à chaque fois, donc la puissance au secondaire, c'est donc la tension au secondaire multipliée par l'intensité au secondaire, mais c'est aussi la puissance au primaire multipliée par le rendement. Et donc on voit bien ici la tension est proportionnelle ici au rapport de transformation. En revanche, l'intensité, elle, elle est inversement proportionnelle au rapport de transformation. Et en plus, il faut multiplier par le rendement. Donc, comme le rendement, voilà, les ralentisseurs aussi, les ralentisseurs Telma pour les bus, ça marche de la même manière aussi. Ça marche avec des courants de Foucault. Voilà. Donc, il y a plein d'applications de cette... De cette découverte. Et puis, je vous ai mis ici, même chose, pour les rapports d'impédance. Donc, le rapport d'impédance, il est indiqué ici, et donc on multiplie par... Alors, cette espèce de N avec une petite jambe, là, c'est le rendement, c'est la lettre grecque eta. C'est pas un N, c'est la lettre grecque eta. Alors, eta comme je sais pas quoi. Voilà, enfin, en tout cas, c'est la lettre du rendement. C'est cette lettre-là un petit peu bizarre, le N avec une petite jambe. Qui est un E en fait, un E minuscule en grec. Voilà, je vous ai mis aussi le cas particulier, on en voit très peu maintenant des auto-transformateurs. L'avantage d'un transformateur, c'est qu'en fait, c'est pour la sécurité. C'est-à-dire que vous êtes certain, ici au secondaire, de limiter le courant par rapport au primaire où vous êtes directement sur le réseau EDF. Donc ici, vous êtes en sécurité dans le sens où votre la tension, elle est ce qu'elle est, mais par contre, l'intensité, elle est nécessairement limitée, finalement, par le transformateur en lui-même. C'est-à-dire que le transformateur, ça ne peut pas générer plus d'intensité que pour ce quoi il est construit. Et donc, c'est en ça qu'un transformateur, ça isole, et donc, ça... Il y a un élément de sécurité complémentaire, ce qu'il n'y a absolument pas ici dans mon auto-transformateur, puisque un auto-transformateur, on a un primaire ici qui porte ici sur l'ensemble des spires, et on a en secondaire ici une partie, donc un point, alors c'est peut-être pas un point milieu, mais enfin c'est un point intermédiaire, un enroulement intermédiaire, où on a le secondaire ici. Donc en tension, on a la tension complète, ici on a un rapport de tension au secondaire qui va être en fonction du nombre de spires, mais ici quand on regarde les enroulements, en fait on va avoir dans l'enroulement du secondaire à la fois l'intensité du secondaire et l'intensité du primaire, alors que dans cette partie de l'enroulement on va avoir que l'intensité du primaire. Voilà. Bon, les autotransformateurs, on les utilise quasiment plus maintenant, ça a été utilisé notamment lors du passage du 110 en 1220, et donc en l'occurrence c'était l'inverse, c'est-à-dire que le primaire il était plutôt ici et le secondaire il était plutôt ici, puisque on devait passer du 110 au 220. Mais voilà, donc ce sont des c'est plus trop utilisé parce que pour des problèmes de sécurité. Voilà. Voilà ce que l'on peut dire sur les transformateurs et on a fini tout ce que... Alors, encore une fois, il y a beaucoup de questions à l'examen sur les transfos, donc faut pas le... Voilà. Faut pas faire l'impasse là-dessus. En revanche, il y a relativement moins de questions sur les piles, tout au moins on va les voir. Mais voilà. Et c'est pas parce qu'il y a une pile dans un schéma que pour autant la question va porter sur une pile. La pile, c'est juste pour vous montrer que c'est de l'alimentation, c'est alimenté en courant continu. Voilà. Donc, on en arrive à la deuxième partie de ce cours. Et on va parler donc des piles et des accumulateurs. Donc, les piles et les accumulateurs sont des réserves de courant continu. On est bien d'accord que les transfos, on était en courant alternatif. Les piles et les accus, vous êtes en courant continu. Et ça emmagasine l'électricité grâce à une réaction chimique. Donc, on va avoir notamment... alors on voit pas ce que je montre. Non, mais je montre rien en même temps. ma pile est constituée d'électrodes, donc il y a deux électrodes, une positive, une négative, et j'ai aussi ça baigne dans un bain électrolytique qui permet de faire la réaction chimique entre mes deux électrodes. Alors mes deux électrodes, elles vont être composées de deux matériaux différents. Voilà. Et généralement, mon bain électrolytique, c'est soit un acide, soit quelque chose un liquide alcalin. Donc quelque chose qui justement n'est pas acide. Représentation schématique. Donc ça, la pile est ici en fait. Hein. C'est ma petite pile, elle est ici. Ici, le trait le plus grand, c'est là où j'ai le plus. Et le trait le plus épais, là, ou le plus court, c'est là où j'ai le moins. Vous remarquez que c'est finalement à l'envers. Enfin, quand on regarde le schéma d'un condensateur chimique, on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le trait fin qui entoure ici qui est au moins et cet aimant-là qui est au plus dans un condensateur électrochimique. Dans la pile, ici c'est bien droit et donc on peut difficilement se tromper entre les deux. Ce que je vous ai mis ici, parce que dans la pile, concrètement, une pile c'est quelque chose qui n'est pas parfait, comme un accumulateur d'ailleurs, il y a une résistance chimique qui finalement est la résistance interne de la pile. Cette résistance interne, elle va nous poser quelques petits soucis. C'est essentiellement dans les piles d'ailleurs, très peu dans les accus. La pile, elle est là, ou la pile ou l'accumulateur est là. Cette pile et cet accumulateur ont une tension qu'on appelle la force électromotrice. Et cette force électromotrice, on va l'appeler E. E comme énergie, on va dire, hein, ou électricité, pour différencier de U, qui est au contraire la différence de potentiel, donc quelque chose qui absorbe la tension. Là, je suis dans le cas du générateur. Et donc, dans ce cas-là, ici, j'ai une tension qu'on va appeler E, qui est donc la force électromotrice. Qui est là, qui est aussi ce qu'on appelle cette tension E, c'est la tension à vide de la pile. C'est-à-dire que lorsqu'on ne la fait pas débiter, la pile ou l'accumulateur, on mesure sa tension, et cette tension, c'est donc la force électromotrice. À partir du moment où ça débite, et d'ailleurs essentiellement pour les piles, cette tension, cette force électromotrice va diminuer. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir cette résistance interne, donc la résistance chimique, qui va être en série. Et donc plus je vais avoir d'intensité, plus je vais avoir une baisse de tension sur ma pile à cause de cette résistance interne, qui est c'est la résistance chimique finalement. Et cette résistance chimique, elle est quasiment nulle dans le cadre des accumulateurs. Différence entre pile et accumulateur, une pile c'est une source, donc ça génère une tension, une force électromotrice, alors qu'un accumulateur c'est à la fois une source ou une charge, selon qu'on le fait débiter ou qu'on le fait recharger. Et évidemment, ça semble évident, mais c'est mieux, ça va mieux en le disant, qu'il faut une tension supérieure à la force électromotrice pour recharger un accumulateur, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour inverser la réaction chimique, eh bien il faut une tension supérieure à la force électromotrice, et ça s'appelle la force contre-électromotrice. Donc c'est en fait la tension nécessaire à la recharge d'un accumulateur. Alors tout ce que l'on peut voir autour de la maintenance des piles, il y a des tas de trucs à dire, mais ce n'est pas au programme de l'examen, et pour ça il y a des tas de sites internet qui vous permettent de savoir comment faire pour maintenir en vie plus longtemps des accumulateurs, et donc attention à ne pas les recharger trop vite, etc., etc., ou avec une force contre-électromotrice trop importante qui pourrait les faire... parce que la réaction chimique, elle pose problème après. Un truc important aussi sur la résistance interne pour les piles, c'est que plus la pile vieillit, plus la réaction chimique est difficile à faire, et donc plus la résistance interne augmente. Donc une pile usagée, en règle générale, si vous regardez au voltmètre, elle a toujours à peu près les 9 volts. Quand elle a plus les 9 volts, c'est que vraiment, enfin tout au moins c'est pour les piles 9 volts, enfin 9 volts c'est les piles, ce que je appelle les piles de clencher, les piles carrées là. Ou 1,5 V par élément. Et donc, lorsque la pile est usagée, elle a moins d'1,5 V par élément, donc moins de 9 V si pour les piles 9 V. Mais quand on en arrive là, c'est que vraiment elle est à bout de souffle. Déjà, elle commence par avoir sa résistance interne qui augmente. Donc, quand vous l'utilisez en utilisation, sa tension elle va diminuer déjà. La tension, sa force électromotrice, enfin, c'est pas la force électromotrice, puisque la force électromotrice, c'est la tension à vide. Ce qu'on appelle la tension à vide, c'est sans qu'elle ne débite. Et donc, du coup, comme elle ne débite pas, eh bien, ma résistance interne, là, on ne la voit pas, puisque la chute de tension aux bornes de cette résistance interne, comme j'ai pas d'intensité, il n'y a pas de chute de tension. Et donc, quand je mesure à vide ma pile, eh bien je masque comme ça ma résistance interne. En revanche, dès que je la fais débiter un petit peu, eh bien la résistance interne va arriver et va faire chuter la tension, et donc on va avoir l'impression que la force électromotrice aura diminué. En fait non, elle n'a pas diminué, c'est juste la résistance interne de la pile qui arrive. Eh ben oui, il faut les tester en les faisant débiter dans une résistance, et voilà, exactement. Quoi dire encore? Oui, dernière chose, les caractéristiques des piles et des accumulateurs, c'est la capacité. C'est-à-dire, quelle quantité d'électricité on peut emmagasiner dans une pile. Et ça se mesure en coulombs. Souvenez-vous, quand on avait fait tout au départ, le coulomb, c'est donc un certain nombre d'électrons, un grand nombre d'électrons, 6 milliards de milliards, donc ça en fait quand même pas mal. Mais comme c'est pas une unité très parlante pour le commun des mortels, on va utiliser une autre une autre unité qui est l'ampère-heure, c'est-à-dire, alors, et un ampère-heure, eh bien, c'est 3600 coulombs, tout simplement. Donc voilà. Alors pour la question de Fabien, Fab D, alors je sais pas, je pense que c'est Fabien, j'en suis pas sûr, ou Fabrice. Les fascicules imprimés, en fait, ils sont pas moins à jour. C'est que ici, je développe. Parce que si je développais tout dans le cours papier, ce ne serait plus 100 pages qu'il faudrait faire, c'est beaucoup plus. Et donc, dans ce que je fais ici, c'est je développe et je montre un peu plus loin que ce qui est dans le cours, mais je me base à chaque fois de ce qui est dans le cours. Donc, je développe plus, mais je n'en dis pas tellement plus. Et surtout, je montre des cas concrets et des composants concrets, ce que je ne peux pas faire, évidemment, dans le cours. Voilà. Pour la question. Donc, capacité, c'est en ampères-heure et non pas en coulomb. Mais voilà, il y a un passage de l'un à l'autre qui est assez facile, puisque, encore une fois, une heure, c'est 3600 secondes, et un coulomb, c'est un ampère par seconde. Donc, il suffit après de trouver le passage et il suffit de multiplier par 3600. Généralement, les piles ou les petits accumulateurs, c'est de l'ordre de 2 ampères-heure, grosso modo, pour faire simple. Il y en a sûrement qui font plus. Hein. Et pour les batteries de voiture, par exemple, c'est plutôt du 50 ampères-heure. Voilà, l'ordre d'idée, c'est ça. Et les camions, évidemment, c'est nettement plus fort. Et ne parlons pas des voitures électriques. On serait complètement hors sujet. Donc voilà les trois caractéristiques importantes des piles. Ici, je vous ai mis les différents piles bâtons. Donc ici, la pile de 9 volts. Et toutes les autres, là, rondes. C'est des 1,5 V. Ce qui différencie, c'est l'encombrement et donc la capacité. Alors, association série parallèle. Alors, première chose, il vaut mieux associer des piles et des accumulateurs de même nature et de même valeur. Ça semble bête. Et surtout, user de la même manière, je dirais. C'est-à-dire que quand vous changez un jeu de piles, si vous avez dans un appareil, par exemple, 4 piles, il faut changer les 4 piles en même temps. Parce qu'elles vont se décharger de la même manière, puisqu'elles sont en série. D'accord ? Et de même, quand on a des accumulateurs, ils sont... On doit les recharger ensemble, et si possible, en série. J'ai bien dit, si possible. Parce que sinon, on risque d'avoir des accumulateurs qui ne sont pas chargés de la même manière, et donc, ça va poser des problèmes au moment de la décharge. On va avoir l'impression que les accus durent moins longtemps. Lorsqu'ils sont montés en série, les piles et les accumulateurs, donc on va voir la force électromotrice, donc la tension, comme c'est en série, eh ben ça va s'additionner, donc elles vont se cumuler. Si j'ai 4 piles de 1,5 V en série, ça va me faire 6 volts. Et de même, les résistances internes, comme elles sont les unes derrière les autres, elles vont s'additionner elles aussi. Et lorsqu'ils sont montés en parallèle, les résistances internes, évidemment, elles vont diminuer puisque elles sont en parallèle comme dans un groupement de résistance, alors que la force électromotrice, elle, va être la même. Alors encore une fois, il faut absolument que les piles elles aient été utilisées en même temps, quoi. parce que sinon ça va poser des problèmes. Il vaut mieux utiliser des montages en série qu'en parallèle, parce qu'il suffit que vous ayez une pile qui ait une résistance interne un peu plus forte que les autres, du coup elle va moins se décharger, et donc ce sont les autres qui vont se décharger plus vite, votre pile dont la résistance interne est plus forte, elle va du coup fournir moins de courant et donc s'user moins vite. Voilà. Donc attention quand on utilise des montages parallèles, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, et encore une fois, pas de questions à l'examen, voilà, c'est du bon sens. Alors, encore une fois, pas de questions à l'examen, mais c'est juste pour que vous sachiez un peu plus comment ça fonctionne. Donc, ce sont une pile ou un accumulateur, ce sont des réactions chimiques, et plus précisément, ça s'appelle de l'oxydoréduction. Alors, et pour ceux qui font un peu qui sont dans la partie, ils appellent ça même du redox. Donc l'oxydoréduction, c'est même des redox. Et donc ces redox, ça va dépendre du couple que l'on va utiliser. Le couple, c'est donc les deux électrolytes qu'on va utiliser. Monsieur Volta, donc quand il a montré sa pile, donc en 1800, au début du 19e siècle. Donc ça, c'est la pile de Volta. Hein. Donc pile, pourquoi ? Parce que c'est un empilement de zinc, de plaques de zinc et de cuivre. Et entre les deux, il y avait je ne sais pas ce qu'il avait mis, des chiffons humectés d'un acide, je suppose. Et donc, il récupérait sa tension ici entre les deux. Voilà comment marchait sa pile. Alors, je vais vous faire un petit zoom ici, si j'y arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, on m'a mis ici boîte en carton, garniture, pâte. Voilà, avec ça. Débrouille-toi pour savoir comment ça fonctionnait. Et en tout cas, voici sa pile, avec ici le pôle positif et le pôle négatif ici. Voilà. Donc c'était un empilement. Voilà. Donc ça, c'est la pile de Volta. Et donc il utilisait du zinc et du cuivre. Et le potentiel de redox, le zinc ça fournit 0,34 volts, le cuivre moins 0,76 volts, et donc l'ensemble ça fait 1,1 volts. C'est pour ça que notre volt c'est 1 volt, c'est que en fait la pile de monsieur Volta était très pourrie et que il avait une résistance interne très importante, et que donc sa pile ne générait finalement que 1 volt et non pas 1 volt 1 à cause de la résistance interne, parce que je suppose il n'avait pas peaufiné tout ça. Et en tout cas, voilà l'origine du 1 volt, c'est un élément de la pile de Volta qui, quand on fait un peu de chimie, le cuivre donc c'est du Cu2+, le zinc c'est du Zn-, et donc l'ensemble fait ça. Et quand on fait ça avec de la petite chimie, donc on fait un disque de zinc, un disque de cuivre, ici une solution aqueuse. Alors avec ça, ça ne dit pas trop ce qu'il y a dedans, mais peut-être de l'eau, tout simplement, je sais pas. Enfin, solution aqueuse, je pense que c'est plutôt de l'eau. Et du coup, on a la décomposition de l'eau qui va nous générer des électrons d'un côté, des trous de l'eau, donc en fait ça va tourner comme ça, et vous avez donc des dégagements d'hydrogène, puisque vous avez ici des électrons qui sont arrachés à l'eau. Voilà le système chimique qui permet de faire fonctionner la pile de Volta. Donc c'est même pas avec un acide ou tout au moins l'eau est un acide. Donc alors pas un acide très 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 virulent, mais un petit peu quand même. Et donc en fait c'est cette solution avec de l'eau qui arrache des électrons d'un côté et qui les renvoie. Alors c'est les arrache du côté zinc et ça les renvoie finalement du côté cuivre. Voilà. Donc ça, c'est la pile de Volta. Ensuite, on a la pile le clencher, c'est celle qu'on utilise. Hein. Et toutes les piles bâtons que l'on utilise, ce sont des piles dites le clencher. Pourquoi ? Parce que c'est Monsieur le clencher qui a déposé le premier, le brevet, pour fabriquer une pile, et qu'on appelle aussi d'ailleurs, c'est des piles salines. Hein. Par rapport aux piles alcalines. Mais on utilise le même couple, c'est-à-dire zinc-charbon et manganèse. Zinc-charbon, c'est donc ce qu'il y a au milieu, là, l'espèce de bâton, là. Manganèse, alors attendez, le manganèse, il est où ? Je ne sais plus. Non, ça, le zinc, il est, c'est la carcasse. Le charbon, il est à l'intérieur dans une espèce de liquide. Et le carbone, ça c'est un bâton de carbone avec du manganèse. Donc voilà. Et donc le manganèse, donc ça génère 0,74 volts. Le zinc, on l'a déjà vu, 0,76. Donc 0,74 plus 0,76, ça fait 1,5 V. Voilà. Et donc vous avez votre système chimique qui marche comme ça. Voilà. Ah, j'ai été un peu trop vite. Et enfin, alors il y en a des tas hein, de potentiels. En fait, à chaque fois que vous avez tension différente sur les piles, à chaque fois vous devez avoir un couple différent et chaque couple va avoir une tension différente. Là en l'occurrence pour l'accumulateur au plomb, on va utiliser du plomb, mais le plomb de deux formes différentes, du plomb pur et du dioxyde de plomb. Donc le plomb pur, en termes de redox, ça me donne 1,685 volts, et le dioxyde de plomb, 1,685 volts, et le plomb pur, moins 0,356, ce qui me fait 2,04 volts par élément. Hein, donc quand on dit 2 volts par élément, c'est très approximatif. Hein, le vrai calcul, c'est 2,04. Ici, je vous ai mis, parce qu'évidemment, pour que ça marche l'accumulateur au plomb, il faut que ça baigne dans de l'acide sulfurique. Ça ne marche qu'avec ça. Et donc, y a toute une réaction chimique qui se fait. Et au bout du bout, finalement, à la fin, lorsque l'accumulateur est vide, tout l'acide sulfurique s'est transformé en eau. Et donc, tout ce qui va enfin, le reste, c'est devient ici, de chaque côté, du sulfate de plomb. Et pour renverser finalement le système, il faut régénérer, enfin, pour retransformer l'eau en acide sulfurique en donnant une tension supérieure à la force électromotrice, donc à mes 2,04 volts. Et c'est pareil, ça se calcule, ça, de la même manière. Mais bon, ça, c'est plus pour votre culture personnelle. Et voilà, si vous êtes intéressé, il y a des tas de... Vous trouvez sur Internet, il y a des tas de sites qui parlent de ça. Nous, pour la fête de la science, ça fait déjà... Ça fait 2 ans, là, déjà. Enfin, 2 ans et demi qu'on avait fait cette petite expérience, qui avait bluffé, d'ailleurs, tout le monde. C'est Vladimir qui l'avait fait, donc un des membres du Radio Club. Donc, il avait pris des petites... mettre un peu plus, allez voir. Et ça, vous pouvez le faire, hein, ça marche très bien. Avec les jeunes, ils sont bluffés à chaque fois, et même les plus âgés. Donc ici, des petits verres à vodka, hein, je pense que c'est connaissant Vladimir, ça devait être des trucs comme ça, des petits verres à shot, là. Et il avait mis des lamelles de cuivre et de zinc, donc disposées de cette manière-là. Voilà, dans cette manière-là. Et ici, il avait mis de l'eau. Et ici, son petit jus, son citron. Et quand le système ne générait plus de tension, eh ben, il rajoutait quelques gouttes de citron dans ses petits verres-là. Et ça relançait le système. Et là, si vous regardez bien, le voltmètre, qu'est-ce qu'il indique ? 3 volts. 14. Donc en fait, ça c'est du zinc cuivre, donc c'est une pile de volta, hein. Pile de volta qui normalement devrait générer environ 4,4 volts, et comme c'est un truc un peu bricolé, les 4,4 volts évidemment ils sont pas là, hein. Mais il y a quand même 3,3 volts, et ça permettait de faire ici de faire fonctionner un petit buzzer. Donc, il y a le manipulateur ici, là. Donc, il faisait fonctionner son petit buzzer via le manipulateur grâce à la pile qui était là. Donc, on a... Voilà. C'était aussi pour montrer comment... Voilà, qu'une pile, ça... C'était assez simple à faire. Et ça fait partie, ça a des petites expériences qui sont sympas à faire avec des jeunes en particulier, parce que voilà, avec rien du tout, on arrive à faire quelque chose d'assez sympathique. Alors, toc. Donc les questions à l'examen, encore une fois, si vous avez une question comme celle-là, typiquement ça, c'est on ne vous demande pas. Il n'y a aucun calcul ici sur la pile. La question qui est posée, c'est quelle est la tension finalement sur la résistance. Puisque ici, c'est juste pour vous dire, c'est une tension continue, mais voilà, c'est tout. Et donc, cette question-là n'est pas, à mon sens, une question sur les piles et les accumulateurs. C'est pour ça que dans les questions d'examen, je ne les ai pas classées dans piles et accumulateurs, mais je les ai classées avec la loi d'Ohm. En revanche, il y a quelques questions, pas beaucoup. Alors Richard dit que ça doit marcher aussi avec le vinaigre. Effectivement, en fait, c'est tout ce qui est acide, ça doit fonctionner. Je ne suis pas sûr que ça marche avec quelque chose d'alcalin. Comme de la soude ou quelque chose comme ça, je ne suis pas certain. Mais ce qui est certain, c'est que n'importe quel acide peut fonctionner. Là, il avait pris un jus de citron, c'est plus pour le fun, quoi. Mais effectivement, je pense que ça doit mieux marcher avec du vinaigre et en particulier du vinaigre blanc. Donc, la question d'examen, c'est... au bord d'une pile dont la force électromotrice est de 9 volts, on branche une résistance de 200 ohms, un courant de 40 mA, et constater dans cette résistance quelle est la résistance interne de la pile. Donc là, je vais vous faire un petit schéma. Alors, les piles alcalines, en fait, ce qui change, c'est le liquide qu'on met dedans. C'est-à-dire, au lieu de mettre un acide, on met un liquide alcalin. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des piles alcalines. Tout simplement. Alors, j'essaye de mettre ça comme il faut. Je vais passer sur la webcam. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, je vais vous mettre ma petite mon petit schéma. Donc j'ai une pile. Je m'en fous dans quel sens elle est, hein, c'est pas grave. J'ai donc mes 200 ohms. J'ai 40 milliampères. Et donc j'ai 9 volts. Alors ces 9 volts, c'est évidemment la résistance, la tension, pardon, la force électromotrice, c'est-à-dire une tension que j'ai mesurée alors que ma pile n'était pas branchée. Donc je mets la résistance interne qui va se trouver. Je vais mettre en rouge, qui va se retrouver ici. Ma petite résistance interne, elle est ici. Quand je fais cette manip là, déjà, quelle tension je trouve sur ma résistance, qui va être la même tension que je trouve ici sur cet ensemble là. D'accord ? Donc, y compris ma résistance interne. Donc, ma tension, donc U égale à RI, R 200, multiplié par I.04, hein, ou 40 10 puissance moins 3, voilà, ça me fait ça, et ça me donne donc 8 10 puissance 0. Donc ici, j'ai 8 volts. Ce qui veut dire que ma résistance interne, là, elle va me consommer 1 volt. Puisque j'ai bien mes 9 volts ici en force électromotrice sur ma pile qui me génère 9 volts à vide. Et donc, c'est que ma résistance interne, elle m'a bouffé 1 volt. Et donc, quelle est la valeur de cette résistance interne ? Donc, j'ai R est égal à U sur I, donc U c'est 1 volt, je divise par I, c'est toujours mes 40 milliampères, parce que mes 40 milliampères ils passent là, mais ils passent aussi dans ma résistance interne, hein, ils font le tour du circuit comme ça, donc je divise par 0,4, enfin 0,04, exé, et donc là je trouve 2,5 10 puissance 1, donc 25 ohms. Voilà ma réponse à ma question. Et encore une fois, c'est plus facile, une fois qu'on a la question comme ça, on redessine pour essayer de mieux comprendre ce dont on parle. Voilà, c'est plus... je trouve que c'est plus aisé. Voilà, je reviens sur le PDF. Contre, j'ai mon stylo noir là qui est un peu pourri. J'ai pas pris le bon stylo noir parce que celui-là il s'efface pas. C'est pas grave, on passera un peu d'alcool tout à l'heure. Autre question, calculer la puissance dissipée dans la résistance en milliwatts. Donc, même idée là. Donc là, il faut que je calcule finalement l'intensité. Hein, pour calculer ma puissance, donc j'ai ma résistance, je vais utiliser P égale RI2. Donc R c'est bon, mais par contre je n'ai pas I. Et comment je calcule I ? Eh bien, j'ai une tension, j'ai une force électromotrice et j'ai deux résistances en série. Donc mes deux résistances en série, là, ça me fait 45 ohms. Et donc, je divise, donc l'intensité I est égale à U sur R, U 4,5 divisé par 45 ohms, et ça me donne donc 0,1 mA ou 100 mA. C'est 100 mA, donc c'est, je prends ma formule P égale RI2, RI2, donc R35 fois I au carré, donc fois 0,1 fois 0,1, donc 2 fois 0,1, donc ça me fait 0,01, c'est-à-dire 350 milliwatts. J'aurais pu aussi utiliser P égale U2 sur R, dans ce cas-là, il aurait fallu que je calcule non pas l'intensité, mais la tension au bord de ma résistance, compte tenu ici de ma résistance interne. Voilà, donc il y a plusieurs méthodes. Je pense que celle qu'on vient d'utiliser, c'est la plus simple. Dernière question, un accumulateur dont la force électromotrice est de 12 volts et dont la résistance interne est négligeable se décharge en 3 heures lorsqu'il est branché sur une résistance de 10 ohms. Quelle est la capacité de l'accumulateur en coulomb et en ampère-heure? Alors évidemment, à l'examen, c'est l'un ou l'autre. Voilà, moi j'ai fait les deux. C'est histoire d'aller jusqu'au bout. Donc encore une fois, je vais repasser sur la webcam parce que quand on a tout ça, c'est plus facile de faire le schéma en fonction de tout ce qui est dit. Je reviens sur la webcam. Alors, j'ai un accumulateur qui fait 12 volts. Résistance interne négligeable qui se décharge en 3 heures. Alors, j'ai une résistance de 10 ohms que j'ai oublié de faire. 10 ohms. Donc, il y a une intensité du coup qui passe et ça va durer 3 heures. Alors là, du coup, c'est un gros feutre. Désolé. Ah, puis là, il y a un reflet. On va essayer de le planquer, le reflet. Pas facile de planquer le reflet. Bon. Donc là, maintenant, ce que je cherche à connaître, c'est l'intensité dans tout le circuit pour en déduire la capacité de ma pile. Donc I est égal à U sur R, U 12 volts, R 10 ohms, donc ça me fait 1,2 ampères. D'accord ? 1,2 ampères, et ça marche pendant 3 heures. Donc 1,2 ampères multiplié par 3600, multiplié par, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure, et multiplié par 3, puisque ça dure 3 heures. On. Donc ça fait 1,2. Je multiplie par 3600. Je multiplie par 3. Et ça me fait donc 1,296 10 puissance 4. Donc 12 960 coulombs. Puisque là, je suis en coulombs, puisque je suis en secondes. Et si je voulais être en ampères-heure, eh ben je multiplie pas par 3600, donc je retire mes 3600, suppresse, exé, enfin 1,2 fois 3, ça me fait donc 3,6 ampères heure, donc 12 960 coulombs ou 3,6 ampères heure. Voilà, donc une fois, je pense que c'est relativement simple. Ça reste assez basique. C'est pas des formules compliquées comme on a pu voir avec les bobines et les condensateurs. Et ça reste encore logique et c'est en fait une déclinaison de la loi d'Ohm, de tout ce qu'on a fait au départ. Celui-là, s'efface nettement mieux. L'autre, je vais le jeter. Ça m'évitera de nettoyer mon tableau blanc après. Voilà. Donc, les petites questions d'examen. Première question, quelle est la puissance dissipée dans R? Donc, j'ai un transfo 3000 spires au primaire, 1000 spires au secondaire, 2 ampères au primaire. Et donc, quelle est la puissance dissipée dans R? Donc là, il faut que je calcule l'intensité au secondaire. L'intensité au secondaire, c'est donc 3 fois plus d'intensité au secondaire qu'au primaire, hein, puisque ici j'ai un rapport ici de 3 sur 1, donc un transformateur abaisseur, mais quand c'est un transformateur abaisseur, ça abaisse la tension, mais ça élève l'intensité, donc ça me fait donc 6 ampères, et 6 ampères, la puissance, donc c'est P égale RI2, donc RI2, 6 fois 6, 36, 36 fois 10, 360, 360 watts. Et ça tombe bien, il y a la réponse, 360 watts. Voilà. Tension au secondaire, qui à mon avis est quand même plus facile ici. Cette deuxième question est plus facile que la première. Donc j'ai 220 volts au primaire avec 1000 spires, 100 spires au secondaire. Donc c'est encore une fois un abaisseur de 10. Hein, donc un dixième, de mes 220 volts au primaire, j'arrive à 22 volts au secondaire, et donc aux bornes de R. Puisque si j'ai une tension ici au secondaire, je vais la récupérer ici aux bornes de ma résistance. Dans un transformateur, on a une tension de 220 volts au primaire et 1100 spires. Au secondaire, on a une tension de 40 volts. Quel est le nombre de spires au secondaire? Alors là, je vous propose de passer sur la webcam, de le faire sur un tableau. Je reprends mon feutre, donc c'est 220. Un joli transfo. Au secondaire, donc là j'ai 1100 et ici j'ai 40. Donc là, ce qu'il faut que je calcule, c'est le nombre de spires. Donc ça va être donc là, je divise, c'est un transformateur qui est abaisseur. Donc c'est 40 divisé par 220. Ça me donne donc 0,18. Donc ça, c'est mon rapport de transformation. Et mon rapport de transformation, je le multiplie par le nombre de spires que j'ai au primaire, multiplié par 1100, et ça me donne donc ici 200 spires. 200 spires au secondaire. Est-ce que j'ai 200 spires? Oui, j'ai 200 spires. Donc, voilà. Réponse. Voilà, alors j'ai mis ici dans ma réponse l'utilisation de mes rapports proportionnels. Donc ici j'utilise l'intensité et le nombre de spires. Voilà, l'intensité, comment j'avais fait là? Le produit en croix, donc l'intensité au secondaire. C'est l'intensité au primaire multipliée par le nombre de spires au primaire divisé par le nombre de spires au secondaire. et ça me donne encore 6. Voilà. De même, ici, j'ai utilisé le nombre de spires et la tension. Donc voilà, j'ai utilisé ces deux couples-là. Et même chose ici pour ce deuxième exemple. Enfin, pour ce troisième exemple, pardon. Mais ouais. Ah, je suis pas repassé sur le PDF. Désolé. Voilà. Donc, ici, mon nombre de. Enfin, le rapport entre l'intensité et nombre de spires, et ici, tension, nombre de spires, et tension, nombre de spires. Et donc, on peut utiliser aussi le produit en croix si ça vous. Si vous préférez, si vous. Voilà, si vous sentez plus à l'aise. Mais sinon, normalement, avec le simple bon sens, en calculant le rapport de transformation, on doit s'en sortir. Enfin, tout au moins dans ces types d'exemples. En revanche, là, ça se complique un petit peu, donc on va peut-être passer à autre chose, et on va passer donc au tableau, enfin au rapport proportionnel. Donc, je vais vous le... donc, racine de ZP, NS, NP... Hein, je vous rappelle, je repasse sur la webcam. Hop, voilà. Donc ici, je vous ai mis les rapports qu'il faut utiliser. Et donc là, ce que je veux, puisque ce que je connais, enfin ce que je veux connaître, c'est ici mon impédance au primaire. C'est ça que je veux connaître. Ici, mon impédance au secondaire, c'est 8. 1500 au primaire et 300 au secondaire. Donc, sur ma calculette, ce que je fais donc 8 fois 1500 au carré, puisque ici, j'ai une racine carrée, n'oubliez pas. Si j'ai une racine carrée ici, il faut que je mette au carré tout. Donc, le carré de racine carrée de ZS, c'est ZS, tout va bien. Mais ici, il faut que je mette au carré le nombre de spires au secondaire et le nombre de spires primaires. Et donc, ça me fait 8 fois 1500 au carré, et je divise, puisque ici, il faut que je fasse le produit de la deuxième diagonale, divisé par la valeur opposée. Donc divisé par 300 au carré, n'oublions pas le carré au passage, pour les mêmes raisons. Et là je fais exé, et donc ça me donne 200 ohms. 200 ohms, c'est une des réponses proposées, tout va bien. En espérant que ça marche, mais normalement ça devrait... être bon. Je reviens sur le PDF. Voilà, donc 200 ohms. On va valider cette réponse. Et enfin, un transformateur fournit 14 volts sous 7 ampères et consomme 665 milliampères sous 220 volts. Quel est son rendement? Alors, encore une fois, on va ressortir le petit tableau blanc et la calculette. Hop. Je reviens sur mon PD, sur ma caméra. Attends que j'en ai une belle, j'en profite. Donc j'ai 14 volts et 7 ampères. Ça me donne 14 x 7, on va calculer la puissance. Ça me donne 9,8 watts. Au secondaire, j'ai alors 220 volts et 665 milliampères, donc j'ai 220 multiplié par 0.665, exé 1,463, donc je fais 9,8 divisé par réponse, donc un 463, et ça me donne 6,699 10 puissance moins 2, donc 0,67. Oui, donc 67%. 0,67. 67%. Et j'ai bien 67%. Vous remarquez... Alors, je reviens sur mon PDF. Alors, juste un truc, c'est que si vous êtes un peu observateur, vous remarquez que 1, un rendement supérieur à 100%, c'est pas possible. Donc déjà, la réponse 150%, vous la retirez. Le 100%, il faudrait que les deux puissances soient égales. En l'occurrence, c'est pas le cas. Et 98%, il n'y a pas suffisamment d'écart. Quand on regarde sans faire le rapport, on voit bien que 20 volts d'un coup, c'est 9,8. Ça va pas dans le bon sens, quoi. Donc ça ne peut pas être ce 98%, ça ne peut être que 67%. Voilà, donc 98 watts. Ouais, et puis c'était pas 9,8, c'est 98. Donc c'est pour ça que j'étais un peu étonné de la réponse. Et en tout cas, c'est 67%. J'ai dû aller un peu vite quand j'ai repris la valeur. Ces rapports proportionnels qu'on peut utiliser dans plusieurs méthodes, ici en rouge une méthode et en pointillé la deuxième méthode. Mais encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre le raisonnement, pas trop de s'acharner sur les formules. Voilà. Une fois qu'on a compris le raisonnement, que c'est proportionnel, la tension est proportionnelle au nombre de spires et l'intensité est inversement proportionnelle au nombre de spires, une fois qu'on a dit ça, ça doit être assez facile. On en arrive, alors pas de questions sur les piles entre guillemets, tout au moins très peu, comme vous avez vu. J'en ai pas recensé, encore moins dans le côté chimie de la chose. Encore heureux. Mais voilà, donc peu de questions et les questions essentiellement sur les transfos. Petit montage de ce soir. Donc ce que je vous ai préparé, c'est en fait un transfo que je vais vous mettre là sur devant la webcam. Attends que j'en ai une. Donc c'est un transfo que j'ai récupéré, c'était sur un magnétophone à cassette pour tout vous dire. Ici j'ai mon primaire qui est ici, que j'alimente ici par du 220. Et mon secondaire, il est ici. Il est ici. Voilà. Ce secondaire, j'ai branché dessus une résistance. Maintenant que j'ai une webcam, je vais pouvoir vous montrer la valeur de la résistance que avant je ne pouvais pas faire. Donc normalement, on doit voir la valeur de la résistance qui fait donc 220 ohms. 120 ohms, je ne sais pas si on la voit bien. Avec les reflets, voilà, je pense que là on doit avoir la valeur de la résistance. Donc voilà, je vais... l'idée, je reviens sur le PDF, parce que je vais, pour mesurer, donc mon idée c'est de calculer le rendement de ce transfo. Et donc si je mesure le rendement, Alors, côté résistance, je dirais ici ma résistance de 120 ohms, je vais pouvoir mesurer la tension à ces bornes, et donc comme j'ai la valeur de la résistance, je vais pouvoir en déduire la puissance qu'elle consomme. Ça, c'est ma loi d'ohm. Hein, maintenant que je les connais, mes lois d'ohm, c'est quand même plus simple. En revanche, du côté de mon primaire, je n'ai aucun moyen facile de mesurer l'intensité. Et donc, ce que j'ai fait un montage pour qu'ici, j'ai une résistance qui fait 1,2 kΩ. Et connaissant ici cette résistance, je vais mesurer la tension ici sur cette résistance, et donc à partir de la tension, je vais pouvoir en déduire l'intensité. Et donc, du coup, si j'ai tension et intensité, eh bien je vais pouvoir calculer la puissance appliquée au primaire. Et donc le rapport après de la puissance consommée par la résistance divisé par la puissance appliquée au primaire va me donner le rendement. Maintenant, on passe aux choses sérieuses et je repasse sur la webcam. Donc j'ai mon joli multimètre. Que je vous mets là, je le mets en volts, voilà. Alors je l'ai pas, j'ai pas encore branché mon transfo, je le branche, espérant qu'il fasse pas tout sauter. Il a pas tout fait sauter, c'est bon. Et donc maintenant je mesure la tension qu'il y a ici entre sur ma résistance. Alors. Alors, ça me semble faiblard. Alors déjà, est-ce que j'ai ici une tension déjà? C'est pas tout. Ben j'ai rien du tout. Donc, j'aurais dû regarder avant parce que je pense que là, du coup, ça fait. C'est débranché. Parce que j'avais vu que la soudure était un peu mal en point. Et je confirme, elle est mal en point. Puisque ici je n'ai aucune tension. Là, je suis en millivolts là, donc j'ai rien du tout. Bon bah désolé. Désolé pour cette fausse manip. J'aurais dû regarder auparavant si tout allait bien dans mon système. Apparemment, ça va pas. Il doit y avoir une résistance, enfin un contact qui est mort là-dessus. Ça sera désolé. Enfin, en tout cas, je vous ai donné la méthode. Je vais vous faire comme avec les valeurs que j'avais trouvées l'année dernière. Ça sera peut-être plus simple. Donc, je devais avoir ici. Alors, le voltmètre est en AC. Mais de toute façon, il n'y a pas d'histoire de. Il est en AC. Non, il est en. Ah, select. Il n'est pas en AC. Merci. Merci Bernard. Je l'ai pas vu. Voilà, c'est bon, ça va mieux. Il est tellement simple ce truc-là que j'oublie des fois de passer de AC à DC. Donc là, j'ai 32 volts. Ah, si je le mets pas devant la webcam, ça va pas aller. comme quoi j'aurais dû regarder auparavant. Donc là, ici, j'ai 33 volts, on va dire, pour faire simple, 33 volts. Et ici, j'ai... Alors, toujours le même problème pour que les touches... Il faut appuyer dessus pour que ça fonctionne bien. Donc là, j'ai 11 volts et demi. OK, donc 11 et demi, et ici, on a dit 33. 33 et 11 et demi, je débranche pour pas me prendre une châtaigne. Je prends mon petit schéma, je dessine mon petit schéma, donc j'ai une résistance, ça me fait 33 volts, mon transfo. Ici, elle fait la résistance, on en profite pour la mesurer, je ne peux pas la mesurer parce qu'il faudrait que je démonte tout. Donc, désolé, on va se contenter de regarder, ah bah si, je peux la mesurer, si je fais ça, voilà. Et si je fais ça, je le mets en ohm, et là, je mesure, et j'ai bien... Ah bah non, je suis sur un transfo, donc c'est... J'ai le courjus. Ouais, je suis sur un transfo, donc ça va pas aller. Ah si, pourtant. Allez. Ah. Si, 1,281 kilo-ohm. 1,3, ouais, c'est une 1,2. Mais on va dire 1,2, quasiment 1,3, on va dire 1,3 pour faire simple. 1,3 kilo-ohm. Donc ma valeur, la valeur ici de mon intensité, I est égal à U sur R. U, 33, divisé par R, 1300. Exé, ça me donne donc 250 25 milliampères. 25 milliampères. Ce qui veut dire que ici, alors ici j'ai 220, je ne vais pas les mesurer, mais on va dire, monsieur EDF me fournit 220. Je chute de 33 volts, donc il ne me reste plus ici, sur mon transfo, ici, que 190 volts, pour faire simple. D'accord ? Donc, la puissance de au primaire, c'est 190 volts multiplié par 25 milliampères. Donc, cette réponse, je la multiplie par 190 volts. Et ça me donne donc 4,8 watts. Sur mon secondaire, j'ai ma résistance. Il y avait marqué 120, on va supposer qu'elle fait bien 120, parce que sinon on s'en sort pas. Mais on peut le mesurer si on veut, il n'y a pas grand intérêt. J'ai 120 volts, j'avais 120 ohms, 11 volts, c'était 11,5 d'ailleurs même. 11,5. Donc j'en déduis que ma puissance P égale donc là c'est U2 sur R, donc ça me fait 11,5 au carré divisé par R 120, exé 1,1 watts. Donc, mon rendement, 1,1 watt divisé par 4,8, à rater, 4,8, exé, ça me donne donc un rendement de 23%. Voilà, qui n'est pas extraordinaire, mais finalement, quand on regarde ce transfo, je pense que là, il doit être sous-utilisé. Et donc, on devrait pouvoir rajouter un peu de puissance en sortie pour augmenter finalement le rendement. Donc voilà la petite manip du vendredi soir qui a marché. Voilà. Je reviens sur mon PDF. Donc mon rendement, 23%. Pas extraordinaire, mais ce genre de petit transfo, ça, ça doit être plutôt du 50-60% quand il est utilisé de manière optimale. Et bien sur ce, je vous souhaite un très bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.